BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Heureusement que ça tourne pas pendant la pause, parce que j'ai entendu des trucs, mais tellement aberrants. Moi, je vous en parle même pas, Emmanuel Le Chypre. J'étais content qu'il revienne, et maintenant je me pose la question, même s'il a un bouc. Bon, alors c'est vrai que son bouc change un peu tout. Pascal Séville, qui est toujours dans son rôle, hein, première de la classe, elle a ses notes, elle attend. Et...
C'est pas
ce qui
est écrit dessus.
Sébastien Lalvé, que je trouve calme, hein, Emmanuel, d'habitude.
C'est la rentrée.
C'est la rentrée. D'habitude, il est énervé, là, je sais pas, les vacances y ont fait du bien, il est moins énervé. Et Valentine qui nous explique tout, point par point, avec 4 points à chaque fois qu'elle a un nouvel argument. Allez, on va parler des marchés, on y va, alors c'est super, hein. 14% de baisse, allez, je vous fais un prix sur le CAC, Eurostock moins 17%, le S&P, ça c'est depuis le début de l'année, c'est pas sur la semaine ni sur la journée, hein. Le S&P 500 moins 16%, le Nasdaq moins 24%, le Nikkei moins 2%, Shanghai moins 10%, et je vous avoue qu'en fonction des jours, mon humeur change par rapport au marché. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me dis, bah, c'est quand même incroyable que ça tienne aussi bien, parce que quand je fais la liste de tout ce qui va mal, l'inflation, la guerre en Ukraine, okay, on en a parlé. Et de l'autre côté, j'ai des jours où je me dis, mais en fait, le marché a pas totalement intégré tout ce qui va se passer, pense qu'on va ressortir de là, sans dommage, et, on va vers un crack. Donc voilà, un jour, positif, eh ben un jour
on
négatif.
Est bien avancé.
Ben non, après j'ai mon opinion, mais on n'est pas venu pour écouter mon opinion, on est venu pour écouter mon opinion des experts.
On la veut aussi, on la veut.
Je vais vous la donner. Sébastien, c'est le jour quand positif ou les jours négatifs, vous réveillez le matin quand vous vous rasez, vous dites c'est la cata ou vous dites au contraire, mais si ça tient aussi bien avec des éléments aussi négatifs, c'est qu'il y a une force sous-jacente dans ce marché. Parce que ça tient bien le marché. Quand les gens viennent me voir en me disant le marché il casse la figure, j'ai envie de leur dire, mais c'est vous vous rendez pas compte, avec tout ce qui se passe, on devrait être à moins 40.
Je ne suis pas la bonne personne, j'ai demandé un agrément de cette gestion à l'AMF entre Lehman et Madoff.
Bon, vous n'êtes pas l'homme du timing.
Pour moi, la genèse d'Arbevel s'est faite dans une période floue. Donc,
justement.
Donc je dirais que la période, elle reste floue. Non, en fait, il y a évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'Europe, donc la partie géopolitique, stratégique est assez angoissante. Mais on se rend compte que ça aussi, c'est assez cyclique, hein. Je pense qu'il y a 50 ans, la période géopolitique était aussi compliquée. Donc ça, évidemment, que c'est stressant. Après, moi, en tant qu'investisseur, je repose mon métier d'encontrer les entreprises, rencontrer les entrepreneurs et les entrepreneuses. Et on voit la résilience, la capacité d'adaptation. Donc moi, j'ai un biais. Parce que je rencontre des gens extraordinaires qui s'adaptent à tout. Et quand vous discutez avec ces gens-là aujourd'hui, que ce soit des sociétés industrielles, des sociétés de services, il y a tout le temps du potentiel. Et quand on regarde la période dans laquelle on vit, il y a quand même des changements structurels extraordinaires.
Sur lequel,
en tant qu'investisseur, on mise. Et si vous êtes sur la bonne thématique avec le bon management, vous gagnez de l'argent. Alors certes, pas en 2022, en tout cas, c'est plus dur en 2022, mais à moyen terme, oui, on gagnera de l'argent. Donc c'est comme ça que je me console, entre guillemets.
Pascal Séville, le verre à moitié plein ou à moitié vide ?
La question à se poser, c'est pourquoi les marchés ont baissé jusqu'à présent.
C'est pas la question que je vous ai posée.
Mais c'est important pour la suite.
En fait, comme les politiques, vous ne répondez pas à la question, vous en posez.
Non, mais ce qui s'est passé depuis le début de l'année, c'est qu'il y a eu une compression des multiples. C'est les cours qui ont baissé, alors que les profits des entreprises, comme le dit Sébastien, et c'est un peu global, ils sont restés quand même assez soutenus.
Oui, mais comme le dit Sébastien, on se projette sur...
On se projette, donc la grande question pour savoir...
Emmanuel, c'est ce que je lui dis, il faut se projeter.
Mais la question à se poser, pour moi, elle est uniquement sur les profits, parce que la compression des multiples s'est faite par la hausse des taux, par l'inflation, par toutes les tensions qu'il y a pu avoir géopolitiques. La grande question, c'est de savoir est-ce que les profits vont tenir. Ça a été un moteur quand même en juillet, pendant qu'on était, enfin certains d'entre nous en vacances, les marchés ont quand même pas trop mal réagi avec des publications d'entreprises qui étaient plutôt positives, encore de bonnes factures, toujours de manière globale. La grande question, c'est est-ce que les profits vont pouvoir tenir, et les anticipations, elles sont encore un petit peu élevées. Donc moi, je ne serais pas quand même étonnée qu'on ait une nouvelle vague malgré tout de baisse. Alors, peut-être pas de 15, 20, 30%, je l'espère, mais je ne serais pas étonnée quand même que ces profits s'ajustent un petit peu à la baisse, les anticipations soient revues, parce que pour le moment, l'impact dans les marges, on ne les a pas encore vraiment analysés. Et il y en aura forcément avec les hausses des matières premières, des salaires et tout ce qui s'ensuit. Donc, plutôt...
Plutôt prudente.
Prudent.
Valentine, vous avez un avis sur les...
Avec une belle perspective quand même sur le moyen terme.
Je partage vraiment ce point de vue. Nous, on continue d'être plutôt prudents. Et d'un point de vue plutôt macro, bah, l'inquiétude, c'est le secteur de l'énergie en zone euro et qu'il ne soit... On ne mesure pas encore complètement l'impact de cette crise de l'énergie sur le profit des entreprises et à quel point aussi il va pénaliser le pouvoir d'achat des ménages. Et, l'autre point...
Donc finalement, ce que vous dites, c'est que le marché il est quand même presque à un prix d'équilibre. En fait, c'est pas quand je dis un jour je suis positif, un jour je suis négatif, c'est que finalement la vérité est entre les deux.
On commence à le marché, les valorisations sur le marché commencent à intégrer évidemment un ralentissement sérieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a pris pleinement conscience de l'impact de cette crise de l'énergie sur l'économie européenne?
Moi,
et surtout combien de temps elle va durer?
C'est quoi vos scénarios sur les taux d'intérêt à long terme? C'est-à-dire qu'est-ce que vous intégrez comme scénario pour avoir ces scénarios là en bourse?
Bah vous, Valentine, vous êtes plutôt un peu négatif sur les taux, c'est-à-dire que vous pensez que les taux d'intérêt vont rester élevés plus longtemps.
Exactement.
Moi, c'est pas du tout mon avis, mais vous, c'est vraiment vous pensez.
Oui,
qu'on va être
oui, parce
d'aller...
Nous, on pense qu'on va être dans un environnement qui va rester plus inflationniste que ce qu'on avait avant le Covid, et donc forcément, on a des taux quand même qui vont être plus élevés, et donc il y a tout ce nouveau mise à jour des valorisations qui doit se faire sur les actifs. Et de manière, je dirais, aujourd'hui, est-ce qu'on anticipe vraiment de façon correcte ce que les banques centrales vont devoir faire pour réduire les pressions inflationnistes? Donc, je dirais, tout d'abord, le secteur de l'énergie. Est-ce qu'on anticipe correctement l'impact et combien de temps ça va durer, surtout dans la zone euro, cette crise? Et quelle sortie? Est-ce que les prix de l'énergie vont rester durablement élevés? Quels investissements on va devoir faire? Quelles solutions? C'est quand même encore aujourd'hui des vrais points d'interrogation, et c'est pas des problématiques de moyen terme. Hein. Ça va être aujourd'hui, on a certes rempli les réserves de gaz, mais ça va être quelque chose qui vont quand même rapidement s'épuiser. Donc on a des problématiques qui vont apparaître dans les quelques mois, et surtout du côté des banquiers centraux. Et est-ce qu'on anticipe correctement ce que les banques centrales vont faire pour devoir réduire ces pressions inflationnistes?
Oui, et elles-mêmes ne l'anticipent pas.
Non,
elles sont totalement.
Elles sont au cas par cas.
Comme disait Emmanuel,
cas par cas,
elles ont complètement
loupé
le truc depuis 3 ans. Quoi.
Meeting par meeting, elle regarde juste les derniers chiffres d'inflation maintenant.
En plus, si ça va très vite dans l'autre sens, bah, admettons qu'on ait que des bonnes nouvelles, que la Chine déconfine, qu'on n'ait plus de congestion, que d'un coup la guerre se calme ou s'arrête, ou on vit avec de manière différente. Comment on va faire pour réagir vite, pour éviter qu'on ait le problème inverse? Parce que si les banques centrales ont monté les taux trop vite, on va se retrouver de nouveau dans une période.
C'est pas grave, parce que c'est le stop and go. Je veux dire, on peut les baisser aussi
vite
aux États-Unis, ils les baisseront aussi vite qu'ils les ont montés.
Je parle de l'Europe plutôt. Ouais. Je parle de l'Europe. Parce qu'aux États-Unis,
on a encore 3 métros de retard. Donc.
Ben voilà, de nouveau, on va avoir 4 ans de retard avec les États-Unis. Donc 4 ans de retard de croissance, et ça va être compliqué.
Alors justement, ça va être compliqué. C'est la question d'argent de la semaine. Aujourd'hui, une bonne allocation pour un épargnant qui a un profil, vous savez ce qu'on dit chez vous, chez les gérants, dans les sociétés de gestion, un profil dit équilibré. Alors c'est quoi? C'est la question d'argent de la semaine. Alors je rappelle quand même un peu un petit rappel historique. Jusqu'à présent, on nous a vendu depuis, j'ai presque envie de dire depuis la Deuxième Guerre mondiale, que c'était, surtout aux États-Unis, hein, c'était le 60-40. C'est-à-dire 60% en actions, 40% dans les marchés de taux, les obligations, et en fait avec un raisonnement qui était très simple, bah, quand les taux montaient, les marchés baissaient, et donc il y avait un effet de protection et de diversification, de protection et de décorrélation. Bon, on s'est aperçu que ça marche pas du tout, en fait que les taux ont monté, et les marchés ont baissé, et on a eu la catastrophe des deux côtés. Et en fait, aujourd'hui, si on prend cette gestion 60-40, hein, qui est vraiment, pour les gens qui connaissent
pas... Là, vous excluez l'immobilier, tout ça.
Oui, là, je suis dans le placement financier. Et ça, enfin, j'explique pour les gens qui nous écoutent, ça a été vraiment... c'est la bible de la gestion basique aux États-Unis, c'est le 60-40, tout a été écrit sur le sujet, et ça a super bien marché jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, je crois que vous le disiez en off tout à l'heure, Pascal, quelqu'un qui a fait ça, par exemple, cette année, en 2022, bah, il perd moins 12%. Moins 12% dans un profil, ou moins 10%, dans un profil dit équilibré, où on a l'impression qu'on devrait avoir des choses qui se comportent. Alors certes, c'est mieux que moins 20% ou moins 15% sur les actions, mais il n'y a pas eu cet effet de rattrapage. Donc, est-ce qu'il y a une remise en cause de cette gestion 60-40? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles règles d'allocation dans un nouvel environnement normal? Je crois que ce qu'a dit Emmanuel est très important, c'est-à-dire sur quoi on va atterrir. On sait très bien qu'on ne va pas revenir à des taux négatifs, à ce qu'on a eu. Sur quoi on va atterrir? À partir du moment où on sait sur quoi on va atterrir, c'est quoi la nouvelle mode, j'ai envie de dire? Qu'est-ce que vous allez vendre, vous, en allocation patrimoniale?
Cette année, c'est clair que c'est compliqué. Le 60-40 vit l'une de ses pires années depuis 50 ans. Donc, alors c'était à la base plutôt les fonds de pension américains qui avaient mis ça en place, en effet. Et là, cette année, ça marche pas du tout. La corrélation est très forte entre les classes d'actifs. Après, ce qui est certain, c'est que pour moi, cette corrélation reste quand même temporaire. Parce que pourquoi ça a baissé comme ça? Les actions n'aiment pas les perspectives.
La décorrélation.
Non, corrélation.
La corrélation reste
temporaire. Oui, enfin décorrélation. Oui.
Ça, on ne va pas être aussi corrélé actions-obligations dans l'année prochaine, en tout cas en 2023. Enfin, j'espère, en tout cas. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les actions ont baissé parce que les taux sont montés, parce qu'il y a des perspectives de récession, parce que les actions de la tech, elles sont analysées sur leur cash flow futur, et les taux, les produits de taux se sont mal comportés parce que les taux sont montés aussi. À partir du moment où on travaille maintenant sur un environnement connu, dans le monde obligataire, on commence à voir des nouvelles opportunités qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps.
Exemple.
Je vous donne un exemple. Les obligations de bonne qualité, horizon 2 ans, émises par des grandes sociétés européennes, elles rémunèrent aujourd'hui. Alors que pendant des années, 3-4%. Okay. C'est quand même assez inédit quand on a emprunté à taux bas, à taux négatif pendant très longtemps. Donc moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période de transition qui rend notre travail d'allocataire extrêmement complexe. Malgré tout, on continue à aller chercher des actions parce qu'on en met les 40 à 45% dans un portefeuille.
Il faut équilibré, on est dans équilibré. Le portefeuille
équilibré. Absolument, il faut bien les acheter, choisir des sociétés qui ont une croissance visible, qui sont peu endettées, qui sont bien gérées, qui ont du pricing power, qui sont leaders dans leur domaine. Et on les achète en plusieurs fois pour lisser.
D'accord.
Je vais peut-être fâcher des gens, mais moi, le reste de la poche action pour monter à 60, je le fais via des produits structurés. Okay. Parce que je trouve que la configuration aujourd'hui entre les taux qui sont montés et la volatilité qui est élevée, donne des combinaisons très simples.
On reviendra là-dessus, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je pense qu'il va falloir expliquer plus avant les produits structurés, parce que je pense qu'Emmanuel ne les connaît pas.
En un mot très rapide, vous pouvez par exemple rentrer dans un produit qui s'appelle un tunnel de taux pendant 4 ans.
On n'y arrivera pas, en rapide. On prendra le temps pour une émission, je crois.
Avec grand plaisir.
Donc vous dites produits structurés en complément des actions.
Produits structurés, ça complète et ça offre de la protection. Pour ne pas être trop exposé aux actions, on achète des structurés avec la protection.
D'accord. Et sur la partie obligation,
la partie obligation, on y va sur des obligations avec des durations courtes, donc pas trop sensibles aux hausses de taux, plutôt à horizon 2 ans, des obligations émises par des entreprises de très bonne qualité et sur lesquelles on peut avoir du rendement intéressant. Et après, il reste une poche de liquidité malgré tout pour pouvoir se repositionner. Et pour les plus longs termes qui ont accès à ces produits, le non coté, ça reste encore aussi intéressant à condition
du private equity,
de bien acheter des bons fonds bien gérés sur plusieurs millésimes.
Sébastien, vous faites à la fois des actions, vous faites des marchés taux, et vous avez des clients en gestion privée, c'est-à-dire des gens qui viennent vous voir, qui ne viennent pas vous voir simplement pour acheter vos fonds stars ou fonds vedettes, mais qui viennent pour vous dire, ben voilà, j'ai tant d'argent, j'ai un profil équilibré, vous voyez ça avec eux, vous déterminez qu'ils ont un profil équilibré, c'est-à-dire Paris staker, mais pas trop prudent non plus. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous faites quoi pour eux?
Une allocation mondiale, c'est-à-dire pas uniquement mono-secteur, mono-géographie. Effectivement, là, le problème du 60-40, ça a été les obligations. Hein. Mais on n'a pas connu beaucoup dans l'histoire des périodes où les taux ont monté avec cette vitesse aussi rapidement et de façon aussi moins prévisible, comme vous avez dit. Il n'y a pas eu cette visibilité. Donc, c'est la poche obligataire qui n'a pas rempli son rôle. Mais
donc, vous dites que le modèle lui-même, on ne le remet pas en question. C'est simplement
à moins que vous attendiez qu'en 2023, il y ait la même hausse de taux non prévue. Quand
début 2022.
Si c'est pas le cas, il y aura pas cette corrélation en 2023.
Donc vous dites le 60-40 n'est pas mort.
Et puis là, il y a pas mal de sociétés de gestion qui ont lancé des fonds datés obligataires. Donc le but, en tant que particulier investisseur, vous achetez un portefeuille d'obligations que vous, si vous la portez à échéance, vous avez entre 6-7% de rendement brut.
C'est inédit quand même.
Le seul risque, c'est qu'il y ait un défaut. Mais si vous portez à maturité et qu'il n'y a pas de défaut entre-temps, vous avez 6 à 7% brut. Donc
c'est quoi ces fonds hein?
C'est des fonds datés, c'est-à-dire que c'est des fonds sur lesquels on va acheter une obligation. Tout le monde peut y aller, c'est un emprunt, mais il faut le tenir à échéance, parce que vous avez compris que le produit, s'il n'y a pas de défaut, il sera remboursé, et donc vous n'avez pas de risque.
Et c'est combien d'années?
Mais 5, 7, 8 ans.
Si les taux continuent de monter, ton obligation, elle baissera. Donc en facial, tu auras l'impression de perdre, sauf que comme tu la porteras à maturité, tu seras remboursé 100%.
Le mot de la semaine pour vous, Valentine?
Volatilité. Volatilité.
C'est presque le mot de l'année, non ?
Ouais, c'est le mot de l'année. C'est la volatilité sur les taux, mais c'est aussi quelque chose qui s'applique à toutes les autres classes d'actifs. Je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de regarder le changement dans les outils de la banque centrale, des banques centrales. Ils ont utilisé, jusqu'à présent, on utilisait la forward guidance, c'est-à-dire que les banquiers centraux donnaient des indications aux investisseurs sur la trajectoire future de leur politique monétaire. Et donc, ça a impliqué que les banquiers centraux avaient une certaine confiance dans leurs projections d'inflation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ne sont plus confiants dans leurs projections d'inflation. Et les banques centrales...
Ils ont raison parce qu'ils sont tellement
frustrés. Donc oui, ils ont bien raison.
Il vaut mieux qu'ils aient pas confiance. Hein.
Et donc aujourd'hui, les banquiers centraux agissent au cas par cas, meeting par meeting, en fonction des dernières données macroéconomiques. Donc ça amène beaucoup de volatilité et ça va continuer d'amener de la volatilité sur les marchés.
Sébastien Lalvé, le mot de la semaine.
Moi, c'est moral avec un E et sans E.
Ok.
Sans E, moral, bah, parce qu'il faut le garder. Donc l'environnement est pourri, on en parle, mais je pense que le seul moyen de s'en sortir, eh ben, c'est de le garder et d'avancer. Et qu'en bourse, généralement, c'est quand vous êtes vraiment déprimé que c'est le plus bas. Donc, et puis les gérants sont déprimés, hein, en réalité. Donc,
est-ce qu'il y a de la décollecte? Je voulais vous poser cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui retirent de l'argent des fonds? En général, je ne parle pas chez vous. Hein, non, parce qu'on a eu un moment de flottement où il n'y avait rien, il n'y avait pas de collecte, pas de décollecte.
Il y a un peu de décollecte, bien sûr, mais il y en a eu comme il y en a eu. Et ça, c'était
sans eux, avec eux.
Avec un eux. Parce qu'il y a plein de gens qui vous parlent de morale en économie.
Ouais.
Et bon, j'ai des spécialistes ici, mais morale et économie, je pense, c'est des foutaises. C'est des gens qui font de la politique. Et vous savez, la morale, c'est.
Vous pensez à qui là?
Non, mais quand vous jouez à la belote, ouais. au tarot, il voilà. y a l'atout. La morale, c'est pareil, c'est un atout. Parce que non, vous n'avez pas le droit de ça, c'est pas moral. Donc là, vous ne pouvez rien dire. Parce que si vous dites, non, c'est quoi ces conneries, vous dites, et t'as
vous
pas le droit.
Vous pensez quoi, l'ESG, à tous ces trucs-là ou...
Non, pas l'ESG, non, mais des politiques qui D'accord. disent, il faut taxer ci, il faut taxer ça. C'est des produits qui ne sont pas moraux, genre de trucs. Enfin, CMA, CGM, c'était quasiment en faillite il y a moins de 5 ans. Hein. Donc là, ils font beaucoup de résultats. Il y a 5 ans, ils étaient au trou. Donc, il faut se méfier de la moralité en économie. C'est un concept qui est beaucoup trop compliqué.
Je vais réfléchir à ça.
Et c'est une bonne façon d'éclipser les débats et qu'il n'y ait pas de débat et qu'il n'y ait pas de réflexion, surtout.
Je cherchais un sujet de réflexion pour le week-end. Le mot de la semaine?
Pour moi, c'est apprentissage. Il y a un chiffre qui est sorti en début de semaine qui montre que l'apprentissage a le vent en poupe. On en a souvent parlé avec vous sur ce plateau. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que, bah, surtout quand on parle de précarité des jeunes et des étudiants, ça leur permet de gagner un peu leur vie, d'être ancrés dans le monde du travail. Il y a même des campus dating qui sont organisés en Dordogne, pour vous dire, pour pouvoir trouver preneur. En Bretagne, ça cartonne aussi. Et je trouve que ça devrait continuer de s'intensifier, même dans des métiers à plus forte valeur ajoutée. Et vous qui aimez l'Allemagne, qui êtes un spécialiste, je vous rappelle que Gerhard Schröder était apprenti chez un quincaillier et il est devenu chancelier. Belle histoire à répliquer.
Belle histoire. Emmanuel Le Chip, le mot de la semaine.
Ah, je dirais inflexion. Parce que franchement, je trouve que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les trajectoires de toutes les variables économiques vraiment se rompent à la mi-année. Hein. Prenez ce qu'on disait sur le pouvoir d'achat, très bas au premier, plus fort au deuxième. La croissance, pareil, assez forte au premier, quasi nulle au deuxième. L'inflation, en accélération forte au premier semestre, stable, voire peut-être en léger repli au deuxième. Je trouve que c'est vraiment, cette césure est assez marquante.
Donc c'est plutôt positif, hein, ce que vous dites quand même.
Ouais, moi je suis pas si inquiet que ça. Ouais.
Vous restez positif. Vous êtes d'ailleurs
après, on
la voie
on
la plus positive.
Pas,
oui,
mais si on fait moins 0,1 ou moins 0,2, vous voyez ce que je veux dire.
On parle pas de ça. On parle de.
Mais ouais.